Le 19 septembre dernier, l'association Déclame a organisé une journée consacrée au patrimoine de Prandaigne. Une occasion en fin d'après-midi de s'interroger sur la notion de patrimoine en compagnie de Marc Carletti, enseignant à l'IUT de Figeac, Benjamin Freys et Hervé Tessédou, tous deux coprésidents de Déclame, Dimitri Hugon, agent de développement de l'association, Pascal Bahut, maire de Prandaigne et quelques sympathisants de Prandaigne et de Déclame. Je vous invite à écouter pendant une petite heure cette émission consacrée donc à la notion de patrimoine, animée par Marc Carletti.
Eh bien, bienvenue à tous sous le soleil automnal de Prandaigne, où on se rassemble pour parler du patrimoine. Alors moi, je suis Marc Carletti, j'enseigne à l'IUT à Figeac. Et on m'a demandé bien gentiment d'animer cette discussion autour des enjeux du patrimoine. Alors, il y a eu toute une journée ici aujourd'hui, avec notamment la restitution d'un travail qui a été fait par des étudiants qui avaient interrogé pas mal de citoyens sur le marché de Figeac, avec plusieurs questions autour du patrimoine. Et donc, moi, j'avais relevé quelques phrases qui m'avaient bien plu. Il y avait beaucoup de réponses qui listaient un petit peu ce que c'était que le patrimoine, les églises, les bâtiments, le patrimoine culturel, culinaire. Il y avait aussi quelqu'un qui disait que c'était, on pouvait inclure les petites choses rondes pour les bergers dans le patrimoine. Et puis, qu'est-ce qu'on en fait? Alors bon, on peut s'en nourrir, vivre dedans, etc. On peut pas vivre sans. Des bons conseils aussi. On a eu des habitants nous ont dit que si on vivait avec le patrimoine qu'on a chez nous, on n'aurait pas de boutons comme ça. Alors ça, c'était dans le micro-trottoir. Donc voilà, déjà c'est une bonne entrée en matière pour commencer à réfléchir à ce que c'est que le patrimoine. Et aussi quelqu'un qui disait qu'on ne pouvait pas faire sans. C'était impossible de faire sans patrimoine, mais en même temps, quand quelque chose devenait du patrimoine, disait une autre personne, ça ne devient plus vraiment une réalité quotidienne. Comme si, finalement, ça disparaissait à partir du moment où c'était patrimonialisé, comme on dit, c'est un verbe un peu compliqué. Voilà, alors ça fait plein de questions, et encore deux, trois que j'ai bien aimées, que j'ai lues dans un article. Très concrète, celle-là. Est-ce que on doit ouvrir de nouvelles parcelles à la construction? Je crois qu'on a quelques élus, au moins un autour de la table. Est-ce qu'on doit accepter un parc à éoliennes? Est-ce que les terres agricoles peuvent encore être entretenues? Et puis sinon, est-ce qu'on doit payer pour ce service, pour que le patrimoine de nos paysages soit préservé? Voilà, donc ça fait déjà beaucoup de choses, mais je laisse la parole aux gens autour de la table qui vont se présenter aussi et qui vont dire un petit peu ce que c'est pour eux que le patrimoine, et puis quels problèmes ça pose et quelles bonnes choses ça peut nous amener. Monsieur le maire, est-ce qu'on doit construire encore et encore? Est-ce qu'on doit limiter la construction? Et quelle maison on doit mettre pour sauver nos paysages? Parce qu'il y a des gens aussi qui pensent qu'il faut le défendre, le patrimoine, comme s'il était menacé.
Alors, bonjour. Pascal Bahut, maire de la commune de Prandaigne. Je ne sais pas si c'est en ces termes qu'il faut répondre à cette question. Construire toujours plus, je crois pas. Utiliser le patrimoine qui est le nôtre pour pouvoir y installer de nouveaux habitants, je crois que oui. Après, je crois que c'est important de défendre ce qui est notre originalité sur chacun de nos villages. C'est le mélange des populations. Alors, je passerai la parole à André, qui est aussi conseiller municipal, qui est quelqu'un qui est arrivé il y a quelques années. Moi, je ne suis pas originaire de cette commune. Je suis là depuis désormais 26 ans. Et je suis très fier d'habiter ce village. Et je crois qu'on a réussi, avec les habitants, à intégrer de nouveaux habitants dans ce patrimoine qui est le nôtre. Alors, est-ce qu'il faut construire de nouvelles maisons sur la commune? Moi, j'ai eu la chance de pouvoir construire une maison neuve sur cette commune. Voilà, aujourd'hui, on limite pour respecter l'espace, pour permettre à chacun de trouver là où il habite un espace pour bien vivre. Alors je pense que, enfin, pour l'instant, il n'est pas question de construire un lotissement sur notre commune. C'est même pas à l'ordre du jour. On l'a, je pense, jamais évoqué. Certains l'avaient souligné parce que c'est important d'augmenter la population. Aujourd'hui, nous, on a un patrimoine bâti qui pourrait permettre à de nouveaux habitants de venir s'installer ici.
Ouais. Bah moi, je m'appelle donc André Bourguignon. Je suis effectivement au conseil municipal de la commune de Prandaigne. Il n'y a pas très longtemps qu'on habite dans la région, mais... oui, on est à Prandaigne depuis 2008, donc vous voyez, c'est pas vieux. Donc en fait, c'est intéressant de le préciser parce que moi, je ne dissocie pas la notion de patrimoine de la notion d'histoire. Le patrimoine, c'est quelque chose qu'on a reçu, hein, et c'est quelque chose qu'on transmettra aussi. Donc je pense que pour moi, le patrimoine, très globalement, c'est l'histoire, c'est une histoire, c'est l'histoire de l'homme, c'est l'histoire des hommes que nous sommes à Prandaigne, en particulier si on parle du patrimoine prandaignois, mais c'est cette histoire-là. Donc moi par exemple, si on s'en tient au patrimoine bâti, eh bien effectivement, moi, quand on est arrivé, on a acheté une grange. C'était une grange, elle était normalement à vocation animale. Bon, on en a fait une maison d'habitation. On a donc transformé la vocation de ce bâtiment que des anciens ont bâti, ont construit il y a peut-être 200 ans, voire plus, pour en faire une maison d'habitation. Donc, mais tout ça fait qu'on s'est inscrit dans une certaine histoire, dans notre histoire. Voilà, donc le patrimoine... quand vous parlez des éoliennes, il y a quelqu'un qui parlait des éoliennes tout à l'heure, là, ben, je pense que on peut transmettre aussi des éoliennes. Pourquoi pas, si ça fait partie d'une avancée, d'un progrès technologique et dans lequel un village comme Prandaigne peut s'inscrire, eh bien, pourquoi pas, si c'est intéressant, c'est à la réflexion de tout le monde. C'est pas moi, Bourguignon, qui vais décider qu'il y aura des éoliennes à Prandaigne, bien sûr, mais c'est pourquoi pas, hein, en tout cas, il faut que ces choses-là s'inscrivent dans l'histoire de la commune, de notre commune. Voilà. Et à partir du moment où ça s'inscrit dans son histoire, eh bien, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle le patrimoine. Voilà.
Alors, c'est en préparant cette discussion, je lisais un article d'une géographe qui s'appelle Anne Sgard. Je recommande, je le dis à la radio, S-G-A-R-D, on peut le trouver sur Internet, il est intéressant cet article. Et elle cite Hannah Arendt, c'est pas pour citer Hannah Arendt, c'est parce que la formule est bonne, elle parle justement, elle dit que c'est un héritage, mais sans testament. Elle cite là, et ça c'est une belle image, je trouve. Donc effectivement, on reçoit quelque chose, mais ce que vous dites là, c'est qu'il n'est pas, on n'est pas tenu de le préserver intact forcément. Mais à ce moment-là, qui décide, quoi? Quand on rénove un lavoir, par exemple, qu'on restaure un lavoir, comme ça a été fait, qui décide de comment on transforme le paysage ou ce dont on a hérité? Alors,
ce qui est intéressant, justement, dans les histoires par rapport au lavoir, justement, c'est qu'on a, à Prandaigne, on a eu la chance de constater que... Il y a des jeunes de l'association Déclame qui nous ont offert un regard panoramique sur ce que nous avons, ce que nous possédons en termes de patrimoine à Prandaigne, à savoir un lavoir. Mais je pense qu'il était important qu'il y ait des gens qui puissent avoir un regard panoramique sur ça. Pour pouvoir pour envisager la restauration, pour envisager l'entretien, etc. Enfin, pour que ça s'inscrive vraiment dans l'histoire que ça s'inscrive pour de vrai dans l'histoire de Prandaigne. Voilà.
Alors juste, je voulais rajouter par rapport à ce lavoir. Ce lavoir avait une histoire qui était possédée par certains habitants de la commune. L'association Déclame, j'aime à dire qu'elle a su rendre aux habitants son patrimoine. Parce qu'à un moment donné, ces histoires qui étaient autour de ce lavoir étaient possédées par nos anciens et ils ont réussi, grâce à Déclame, à nous la partager. Et aujourd'hui, cette histoire, elle appartient à tous ceux qui ont bien voulu l'écouter. Et je crois que ça, on doit le rendre à Desclames. Il y a, c'est des gens, des, et à la fois, Desclames, ce sont des jeunes qui sont d'ici, voilà, qui sont de ce territoire-là et qui ont et qui aiment ce territoire.
Oui, donc Hervé Taïsédou, ancien habitant de Prandaigne et désormais co-président de Desclames. Je ne vois pas trop quoi rajouter par rapport à ça, si ce n'est que tout ce que vous avez déjà pu énoncer tout, jusqu'à maintenant, ça me fait penser à quelque chose qu'on dit souvent au sein de l'association, c'est que le patrimoine, ce n'est pas quelque chose de mort, c'est quelque chose qui est vivant. Au même titre que, qu'éventuellement une pierre ou un arbre ou quoi que ce soit, quand on hérite de quelque, d'un patrimoine, c'est pas quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui va être amené à évoluer, à recevoir la marque des habitants, des acteurs, des personnes qui peuvent tourner autour de ça, pour ben, le façonner à la manière d'aujourd'hui, sans forcément anticiper comment ça va être demain, mais intervenir dessus avec des problématiques actuelles, avec les questions qu'on peut se poser avec nos situations actuelles, en prenant en compte forcément le passé, en essayant de voir comment peut se passer le futur aussi. Mais voilà, le patrimoine pour nous c'est quelque chose qui est vivant et qui n'est pas une, une matière figée.
Dimitri, du coup de l'association aussi, je suis permanent. C'est ce qui nous intéresse aussi également dans cette forme par exemple de débat. Alors moi je vais dire moi, mais je pense que c'est partagé au sein de Desclames. Ça m'emmerde assez, je trouve, le fait de vouloir par exemple définir ce que peut être le patrimoine. En fait ça le fige quelque part. Arriver à dire le patrimoine c'est ça, bah déjà ça ferme toutes les autres possibilités de ce que ça pourrait être. Et du coup, l'intérêt, il est dans plutôt comment les gens se l'approprient. Et je suis ravi que Pascal, du coup, ait relevé ce qu'on a essayé de faire, je crois, autour du lavoir. C'est ça qui est intéressant, c'est comment les gens se sentent chez eux, sentent que ça leur appartient et qu'ils peuvent avoir qu'ils peuvent s'y impliquer dedans et qu'ils peuvent réécrire l'histoire de cette chose-là. Enfin, je trouve que c'est ça, c'est plus ça, finalement. Donc, aller définir après, ben, le patrimoine, c'est ça, ben, ça va quelque part empêcher quelqu'un d'autre de se l'approprier à sa façon, il peut appeler ça autrement, enfin, on s'en fout finalement. Bon voilà, et c'est un petit peu ça du coup que je crois qu'on essaye de transmettre en tout cas quoi.
Bonjour Quentin, de mon côté je pense que le patrimoine existe à partir du moment où on s'y intéresse. C'est-à-dire, on a entendu plein d'exemples, le patrimoine ça peut être des outils, une recette, du bâti, un paysage, des histoires même. Peu importe, ça devient du patrimoine à partir du moment où on y porte un intérêt, où on a envie de le faire vivre, comme Hervé le disait. Si c'est mort, c'est mort. Je peux avoir un tas de caillasses au fond du jardin, j'en ai rien à taper de ce que c'est ces caillasses. Ils vont me servir pour faire autre chose ou ils vont croupir là. Si j'ai envie de, ça peut devenir du patrimoine. Simplement en fonction du regard que je vais porter dessus, m'intéresser à leur histoire, la notion d'histoire en effet me paraît importante, et à partir de là, à partir du regard qu'on porte dessus et de la dynamique qu'on accole à ces choses qui sont matérielles ou immatérielles, là ça peut devenir du patrimoine.
Merci, mais alors effectivement on a regardé par le passé les châteaux, les églises d'une certaine manière et on s'est dit à un moment, peut-être surtout au 19e siècle, tiens on va les protéger, ça c'est du patrimoine. Alors qui définit ce qu'est le patrimoine? Alors bon, au niveau national on a évidemment voilà, les monuments, enfin les conservateurs du patrimoine, mais même au niveau local, alors qui va définir que ça vaut le coup d'être gardé plutôt qu'autre chose? Est-ce que ça pose question ou ça pose problème? Est-ce qu'un hangar agricole qui a été construit dans les années 50, on a envie de le garder, par exemple? Et qui peut ou doit décider du fait qu'on le garde ou pas? Je ne sais pas si quelqu'un a une expérience, un témoignage ou un avis là-dessus. Allez-y, monsieur.
Bon, moi je dirais, Jérôme Parent, un voisin du Ségala, et ben, tout ce qui peut être amené un jour à disparaître et qui tôt ou tard aura un intérêt. Et un truc agricole du 1950, ça sera un jour intéressant. Donc il faut peut-être en garder un, deux, trois, on en bousille deux, on en garde un, ça suffira. Et puis le patrimoine, c'est les gens, c'est les collines, c'est les arbres, c'est les maisons, c'est tout ça, quoi. Enfin bon, je reparle après.
Oui, Jacques, je ne suis pas de Prandagne, mais je suis un aficionado de Prandagne. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que, premièrement, on parle souvent du patrimoine, et on met un grand P. Et moi, ça me dérange. Parce qu'on le sanctifie, c'est comme la journée de la femme, on en parle une fois dans l'année, et après, on n'en parle plus. Voilà. Et première réflexion. Deuxième réflexion, pour moi, le patrimoine, c'est pas uniquement des pierres, etc. C'est plus universel que ça. Et nous revenons avec ma femme d'un voyage, et moi, je trouve que le patrimoine, il est mondialisé. Et je pense que lorsqu'on parle de la nature, par exemple, lorsqu'on parle de la sauvegarde d'une forêt ou de la sauvegarde d'une espèce animale, eh bien, on est là-dedans dans le patrimoine, mais un patrimoine qui est universel. Et bien sûr, ensuite, il faudra aborder le problème de conserver ce patrimoine. Moi, ce que je voudrais dire au niveau des idées, c'est que si nous n'avons pas ce patrimoine, puisqu'on l'appelle comme ça, le patrimoine, pour s'appuyer dessus et pour vivre maintenant, on n'aura rien. Parce que pour aller de l'avant et pour pouvoir continuer à exister, à vivre sur Terre, il faut regarder derrière, regarder ce que la nature nous a donné, et ce que les civilisations antérieures nous ont donné, et c'est avec ça qu'on pourra avancer. Pour moi, le patrimoine, c'est beaucoup plus universel que ça. Ensuite, c'est vrai qu'il faudra aborder cas par cas, mettre la main dans le cambouis pour savoir définir et garder et sauvegarder. Et voilà. Mais c'est plutôt, pour moi, c'est très universel, le patrimoine.
Est-ce que vous diriez que c'est un bien commun? Parce que c'est un terme aussi qu'on entend beaucoup. Enfin, beaucoup,
alors,
je ne sais pas, mais est-ce que c'est un bien commun?
C'est un bien commun. Voilà. C'est un bien commun qui ne s'arrête pas à la commune, au pays, à l'Europe. C'est un bien commun qui, ça concerne tout le monde. Et cette prise de conscience, je pense qu'elle commence à se faire. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de travail.
Bonjour Benjamin, coprésident aussi de l'association Déclam, habitant à Saint-Perdoux, c'est important de le dire, ça, Saint-Perdoux à la radio. je fais un peu de pub, c'est normal. C'est vrai que nous, avec l'association Déclam, on ne voue pas un culte particulier au patrimoine, pourtant on fait que bosser là-dessus, mais... En fait, on a l'habitude de dire qu'on s'en fout un peu du patrimoine, on le considère seulement comme un outil. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que les gens vont vivre autour du patrimoine. C'est ce que ça va mettre en route, mettre en œuvre derrière. Et donc, bon, le lavoir de Prandagne, il est joli, mais on aurait pu bosser sur autre chose, ou les mines de Saint-Perdoux, c'est sympa, mais pourquoi avoir bossé sur celle-là en particulier? À chaque fois qu'on a bossé sur différentes communes, Faïssel, c'est la même chose. Les choix du patrimoine, ce qui a orienté nos choix dans le boulot sur le patrimoine, c'est quand ça a fait sens auprès des habitants. C'est-à-dire, c'est quand les habitants ont répondu présent pour se mettre en route et pour dire « ouais, là, ça vaut le coup et on va faire ensemble et on va faire quelque chose autour de ça ». Donc, c'est vrai qu'on se base pas mal aussi sur du sensible, quoi. Ce que les habitants nous renvoient, ce qui fait sens pour eux et... Après, pour autant, on a quand même notre avis sur les choses et on essaye de mettre en valeur certaines idées parce que je crois que dans le patrimoine, il y a aussi les idées. Et le patrimoine, c'est un héritage, c'est une transmission. Et je pense qu'il y avait de la simplicité qui s'est un peu perdue parfois. Et en travaillant autour du patrimoine, eh bien, on peut refaire vivre cette simplicité. Là, on s'est amusé cet après-midi, on a fait des joutes rurales. Alors, on a coupé du bois, on a fendu du bois, on a couru dans la forêt pour aller chercher des fagots. Et plus personne ne le fait aujourd'hui, mais si on a fait le choix de proposer des joutes rurales, c'était aussi pour qu'on reprenne un peu goût à ça, qu'on y remette un peu les mains et qu'on se rende compte qu'en fait, ces activités qui sont simples quand on les prend sous l'angle du jeu, qui peuvent être dures si c'est le quotidien, pour autant, elles ne sont pas dénuées de sens et c'est un choix en fait de société à un moment donné. Donc voilà, ça fait partie des options entre guillemets un peu qu'on prend pour faire vivre et animer le patrimoine. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait dit ben, aujourd'hui, c'est des journées du patrimoine à Prandagne, mais c'est pas tout à fait les officiels, c'est un peu du patrimoine autrement. C'est vrai qu'on n'a pas ouvert un grand château pour le faire visiter. On a plus décidé de jouer, de faire de la transmission un peu de savoir-être et de savoir-faire autour de ça. Et puis je rajouterais qu'on aime bien aussi nous parler de paysage. Parce que le paysage, c'est le rapport entre l'homme et l'environnement. Et je pense que c'est une question qu'il va falloir se poser plus largement. Quand on prend un peu de recul, tout à l'heure quelqu'un disait panoramique, quand on prend du recul et qu'on regarde le paysage, ben normalement c'est censé nous amener à porter un regard sur le rapport que nous avons, nous, les hommes, et avec l'environnement. Et quand je vois les zones industrielles fleurir et au bout de 20 ans on décide de les vider parce qu'elles sont plus rentables, donc on va les faire un peu plus loin parce que c'est mieux, ça me pose question. Voilà. Et Saint-Perdoux, n'oubliez pas.
Donc le paysage, alors c'est une manière de regarder effectivement l'espace particulier à partir d'un point de vue. Et donc moi je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais peut-être j'ai tort d'y revenir. Mais si on parle d'enjeux, ça veut dire aussi potentiellement des accords. Et là on n'a pas forcément le même point de vue sur ce que c'est que le paysage. On ne regarde pas le paysage à partir du même point de vue, à partir du même point, quoi. Et donc moi, je demandais qu'il y avait une histoire, mais en fait j'en ai une, mais je suis animateur, je ne dois pas raconter d'histoire, mais c'est pas grave, elle est courte. C'est une dame qui habite à côté de chez moi et qui habite dans une maison qui a été construite dans les années 50. Et moi j'ai acheté une maison ancienne que j'ai restaurée, un peu comme André, enfin c'était une partie grange, et c'est une dame un peu âgée. Et puis elle discutait, elle me disait, moi je suis né là, je suis né dans le quartier. Et cette maison dans laquelle j'habite aujourd'hui, pour la construire, on a dû démolir la grange. La grange qui était... Et elle dit maintenant, je regrette. Alors pourquoi elle regrette, alors qu'elle a une belle maison finalement, mais effectivement, qui n'est pas, pas dans un beau village du Lot, enfin qui ne correspond pas à l'image qu'on lui renvoie en permanence, j'imagine, depuis des années, de ce que c'est qu'une belle maison. Alors moi je trouve c'est douloureux cette histoire qui touche une personne, parce que finalement quand elle a construit sa maison avec son mari, elle devait être très fière et elle avait raison. Et ça veut dire qu'on a aussi une image du patrimoine qui nous est imposée. Et alors qu'est-ce qu'on a comme garde-fou là pour éviter qu'il y ait une espèce de tyrannie aussi de cette vision là du paysage. Je vois... C'est Quentin, donc tu as envie de répondre.
Oui, ça, y a une idée qui me vient en entendant ça, c'est que si le patrimoine, si on hérite du patrimoine, si le patrimoine est un héritage, par extension, est patrimoine ce qu'on a envie de léguer, ce qu'on a envie de transmettre peut devenir patrimoine, ce à quoi on attache de l'importance pour laisser pour la suite.
Oui, mais si les gens autour de toi te disent, ou tu as l'impression, à tort raison, qu'on dit que ce que tu as, c'est pas beau. Parce que cette dame-là, moi, c'est l'hypothèse que je fais, mais j'ai peut-être tort. C'est-à-dire qu'elle voit dans tous les magazines des belles maisons du Lot, mais c'est pas sa belle maison du Lot, qui aurait pu être une belle maison du Lot, elle l'a fait démolir pour construire sa nouvelle maison. Alors, donc peut-être.
Moi, ce qui me dérange, là, c'est que. Pourquoi dire que le patrimoine, c'est ce qui est beau?
Ça, c'est la dimension
moi, ça me dérange, mais fortement, parce qu'on ne voit que ça, que des belles choses, des dorures, des châteaux, etc., etc. Mais je trouve que le patrimoine, ce n'est pas ça. Une horloge dans un clocher qui est ancienne et qu'il faut restaurer, c'est aussi beau que la galerie de glace. Ensuite, vous disiez, il faudrait savoir, et si on n'est pas d'accord? Vous l'avez dit, si on n'est pas d'accord. Mais heureusement, il faut ne pas être d'accord. Parce que si on est d'accord, on ne garderait pas... un patrimoine, on regarderait certaines parties d'un patrimoine, et ça serait, disons, transmettre aux autres une partie de ce qu'on était, et ça c'est grave pour les générations qui viennent. Voilà, donc pour moi, le patrimoine c'est pas ça, quoi. C'est...
Ce qui n'est pas beau aujourd'hui peut le devenir. Et, enfin, j'ai un exemple, moi, la piscine Molitor à Paris, quand j'étais môme, pour moi c'était ignoble. La mairie de Boulogne, c'était... Mais aujourd'hui, je rêve de revoir ces bâtiments-là, quoi. Donc, ça peut redevenir joli, tout ça. Et ce que tu disais, l'héritage, le patrimoine, c'est un héritage. De patrimoine, ça viendrait de pater, l'héritage du père. Voilà, enfin bon.
Moi, je voulais revenir un peu sur ce que tu disais, quand même. Il y a une espèce de regard qu'on porte et qui impose quelque chose, quand même, qui impose une... alors, on a l'air d'être à peu près d'accord pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ce truc-là, mais je vois nos maisons lotoises, mais comme en général les maisons paysannes, là maintenant, depuis 5-10 ans, il faut des joints de pierre. Il n'y a plus d'enduit. Et c'est un truc, par exemple, qui est aberrant techniquement, parce que la pierre, ben, elle n'aime pas ça. Elle aime pas être, elle préfère être protégée derrière un enduit, tout ça. Pour autant, la vision de ce qui est patrimonial maintenant, c'est la pierre. Donc, il faut qu'on la voie et donc on enlève ces enduits. Alors, peut-être à raison par rapport au ciment qui a été mis dans les années 70, mais les autres enduits plus anciens protègent la pierre et ont une raison technique, j'ai envie de dire, quoi. Voilà, c'est un exemple ce que tu disais me faisait penser à ça. Et maintenant, les gens pètent cet enduit, même des fois qui est bien fait, à la chaux, qui a 50 ans, voire plus, pour qu'on retrouve cette pierre, qu'on les voit, alors que... Parce qu'il y a cette espèce de poids, c'est la mode. Ouais, il y a une mode patrimoniale, peut-être, qui...
Pardon, Hervé. Du coup, pour rebondir sur ce que dit Dimitri, c'est là aussi l'idée de la transmission, pas que du patrimoine au sens matériel du terme, mais aussi du sens qu'on met derrière, de l'idée. Et effectivement, aborder la question de l'enduit, pour reprendre cet exemple, bah, ça suppose que peut-être il faut parler des propriétés de l'enduit, il faut être capable vraiment de discuter de tout ça, dire que ça a un impact sur l'isolation, sur la protection de la pierre. Mais c'est en ça qu'il y a eu un moment où on a transmis le patrimoine pour transmettre des choses jolies et de la belle pierre, sans savoir le pourquoi du comment. Et là, ce qui est important aussi, c'est au-delà de transmettre la pierre, c'est aussi de transmettre les savoir-faire, les raisons de ce savoir-faire, pourquoi on a fait ce choix-là. Donc de vraiment connaître profondément son patrimoine pour expliquer le sens du choix des anciens. Et après, libre à nous de juger si effectivement on fait les mêmes choix. Ou si, voilà. Mais au-delà de la pierre, au-delà du matériel, de ce qui se touche, il ne faut pas oublier tout ce qui est immatériel et qui souvent justifie un peu des choix patrimoniaux. Il donne sens.
Oui, alors moi, cette petite histoire de cette brave dame, elle me fait penser avant tout à une chose. Alors, je suis désolé pour cette grange et malheureusement, on n'y pourra plus rien. Mais si on prend un peu le recul sur cette histoire-là, moi, je me rends compte qu'en fait, elle s'est posée la question. Avoir détruit cette grange, ça lui a permis de se poser la question de pourquoi est-ce que je l'ai fait. Et pourquoi, éventuellement, est-ce que je ne l'aurais pas fait ? Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on peut avoir des débats sur qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui n'est pas beau, qu'est-ce qu'il faut conserver, qu'est-ce qu'il ne faut pas conserver. Là, je pense que des débats comme ça, on en a pour des milliards d'années. Et moi, à titre personnel, je préfère voir une châtaignerie dans le Ségala que voir la nouvelle 306 de chez Renault, par exemple. Ou je ne sais pas qui c'est qui fait ça. On s'en fout, c'est pas grave. C'est un détail. Mais voilà, la beauté, c'est tellement subjectif, que ça concerne une grange, une voiture ou quoi que ce soit. Si ce genre de mésaventure doit arriver pour que les personnes se posent la question de pourquoi j'ai fait ce choix, moi, je trouve que c'est déjà un grand pas en avant. Et ça permettra éventuellement, peut-être dans le futur, que cette question-là se repose pour chaque choix qui sera fait, justement. Plus tard, quand je vais intervenir sur tel mur en pierre, sur telle forêt, sur telle ou telle chose. Pourquoi est-ce que je le fais ? Quel intérêt j'y ai ? Qu'est-ce que je vais détruire ? Qu'est-ce que je vais gagner ? Qu'est-ce qui se passe sur ce que je vais faire ? Et le questionnement, c'est quelque chose qui restera au final.
Oui. Moi, ce que je me suis dit, c'est que peut-être à l'époque, tout le monde trouvait que c'était mieux d'avoir une maison en ciment. Et puis aussi, peut-être que ça lui coûtait plus cher de restaurer sa grange. Et ça pose la question aussi des moyens aussi qui sont nécessaires pour arriver à comment dire à la hauteur des critères qui sont posés sur ce qui est beau et ce qui n'est pas beau pour cette dame. Et ça lui coûtait plus cher d'avoir une belle maison. Et donc est-ce que finalement c'est pas les puissants qui imposent l'image du patrimoine, pour faire bref? Donc est-ce que si le patrimoine, c'est aussi une question politique, est-ce qu'on n'est pas là, on a une grande absence de démocratie en ce qui concerne le patrimoine. Donc concrètement, dans une commune, qui décide de préserver telle chose et à partir de, est-ce qu'on est démocratique là?
Gaëtan, je pense qu'à un moment donné, c'est vrai que les puissants sont intervenus. On parle des 30 glorieuses, par exemple, si on fait référence à ça. Tout le monde, il fallait qu'on ait sa maison, il fallait qu'on ait une voiture, il fallait qu'on ait un frigo, c'est un petit peu dans cette mouvance. Et je pense qu'il y a des gens qui effectivement ont couru après ça. Et là, on est un moment dans notre société où on se pose beaucoup de questions, où il y a, et on prend peut-être le temps, enfin, pas tout le monde évidemment, mais voilà, il y a des choses qui nous interpellent. On se dit, on a couru droit, on avait bien été formaté pour le progrès, le modernisme, etc. Et qu'est-ce que ça nous a amené vraiment? Je pense qu'il y a voilà, un questionnement. Cette dame, c'est peut-être plus peut-être ça aussi, quoi. Il y a beaucoup de gens aussi qui se posent des questions, qui sont allés... Moi, je sais que moi, j'ai une grand-mère qui n'avait pas beaucoup de moyens et qui, par exemple, à un moment donné, a fourgué tous ses vieux meubles anciens contre du formica, quoi. Ça s'est fait dans les campagnes, à tour de bras. Puis après, on se disait, mais pourquoi on a acheté ça? Ça ne tient pas le coup. Enfin, je veux dire... Voilà. Bon, j'ai rien contre le formica particulièrement, encore que voilà, mais ça revient à la mode.
Oui, ça vaut très cher maintenant.
Voilà. Donc oui, je pense qu'on est à un moment dans notre société où on se pose pas mal de questions. On ne sait pas toujours les interpréter non plus. Enfin, on ne sait pas toujours interpréter tout ce qui nous bouleverse aussi un petit peu. Mais ouais, je pense que à un moment donné, le patrimoine, c'était les belles églises, les beaux châteaux, aussi ça. Et j'avoue que depuis que je suis dans le Lot, puisque je ne suis pas originaire du Lot, de vivre à la campagne, parfois, ça, on prend le temps de se poser et effectivement, je suis contente de participer à ça, ce n'est pas souvent, et de se dire que le patrimoine, ce n'est pas uniquement les pierres aussi. Voilà, il y a quelque chose d'autre derrière.
Moi, je voulais un petit peu réagir sur, l'aspect d'impuissance que tu disais par rapport à je ne sais pas un complot, mais... Enfin, on est quand même responsable de nos choix, et même si des fois c'est pas vrai, il faut continuer à croire que l'on peut l'être, parce que sinon on va laisser tomber et ça va pas être possible, quoi. Donc oui, il y a des phénomènes de mode, des choses qui font que on est plus guidé pour que nos choix sont un peu guidés par certains trucs, mais on doit encore croire que c'est possible d'avoir un autre avis que celui qui nous est imposé et qu'on peut le prendre et qu'on peut y aller, quoi. Même si, tu l'as un peu dit, il y a d'autres réalités, il y a des réalités économiques, il y a des réalités, pourquoi des fois on a fait ce choix là et pas un autre, parce que c'était peut-être moins cher, bon, je suis conscient de tout ça, je veux dire, je suis aussi conscient que oui, il y a des choses qui sont mises en place, on n'est pas toujours libre de nos choix quand même, mais il faut continuer à croire qu'on peut l'être, parce que sinon on va baisser les bras et c'est pas possible, quoi.
Moi, je reviens sur cette histoire de paysage. Le fait de, quand on va sur un point de vue, on prend du recul et c'est pas inintéressant, et physiquement et intellectuellement. Et je pense que justement, quand on prend du recul et qu'on regarde le paysage, ça nous permet de porter un regard sur les choix que individuellement et collectivement on fait. Et pour illustrer ça, je vais revenir sur mon histoire des zones commerciales et des zones industrielles. Mais j'entends tout le monde se plaindre que les centres-villes se vident, mais tout le monde va faire ses courses au supermarché à 90%. Donc on peut s'en plaindre dans le discours, mais concrètement dans les actes, à partir du moment où on est les premiers à aller faire ses courses au supermarché, eh bien on fait le choix d'avoir un paysage qui ressemble à celui-là et d'avoir des centres-villes vides. Donc voilà, c'est pour ça que nous, on commence un peu plus souvent à parler de paysage que de patrimoine, parce que le patrimoine, il catégorise, il sectorise. Donc on va dire à l'église dans le centre de Figeac, on va la retaper, elle sera jolie, mais on ne prend pas du recul sur l'ensemble et on ne va pas se dire, par contre, il n'y a plus rien en Figeac. Continuons à leur faire nos courses ailleurs, ce sera très bien. Donc parler du paysage, c'est globaliser un peu notre rapport avec l'ensemble de tout ce qui compose nos patrimoines. Et essayez pas de les sectoriser, de les catégoriser, mais de les prendre dans leur globalité.
On est tous responsables de notre patrimoine.
On est tous responsables de notre patrimoine, mais on est assez, par moments, assez lâche pour dire on a des maires, on a des conseillers, on a des hommes politiques, on va leur laisser la faculté de décider ce que le patrimoine, etc., etc. Et je pense que la première chose à faire, c'est une prise de conscience individuelle et citoyenne par rapport à ça. Et ça, je pense que c'est pas tellement évident. Voilà. C'est très difficile. Alors c'est vrai qu'on va déléguer. Bon, il faut dire que les maires ont été élus démocratiquement. Donc, merci. Voilà. Quand même à Prandeil. Ouais, voilà. Mais voilà, mais je pense qu'il faut être honnête. C'est ça, c'est qu'on va déléguer. Et puis on va lire des belles choses, on va regarder ce que font les gens, on va critiquer, on va approuver, et puis bon voilà, c'est tout, quoi.
on sera bien content, quoi. Ce sera un peu café du commerce, quoi.
Les élus qui ont été nommés.
Non, qui ont été élus. Démocratiquement, il a dit. C'est vrai. Alors, je ne sais pas si vraiment... Alors, je ne veux pas défendre les élus, hein, parce que tu avais raison en disant que souvent, on leur tape dessus et ce n'est pas eux qui décident tout seuls non plus. Mais je crois que la dimension humaine est importante. Alors, effectivement, tu as parlé de centre-ville. Alors, parfois, ça échappe à tout le monde. Je crois que la taille humaine permet aussi, dans un petit village, d'en discuter avec les gens qu'on a autour. Je pense que quand les élus, alors on parle des maires, mais les conseillers municipaux sont aussi élus démocratiquement et ils sont les porteurs de la voix des habitants. Et je crois que dans un conseil municipal comme le nôtre, nous sommes 11, je crois que chacun peut rapporter la parole des gens qu'il a autour. Et je crois que, alors après tout le monde ne participe pas forcément au débat, mais je crois qu'on est aussi dans un petit village à taille humaine, à l'écoute de ce que disent les habitants. Et je voulais rappeler ce que... Alors, on a parlé beaucoup du lavoir de la commune. Moi, j'aime beaucoup puisque le Déclam a aussi travaillé sur un chemin. Et le nom du chemin, c'était les sentiers retrouvés. Et je crois que cette notion de retrouver notre patrimoine est importante. Et je crois que le choix des mots, alors, était sûrement très important pour vous, Déclam. Enfin, j'imagine que vous y avez réfléchi, hein. Enfin, en tout cas, j'espère. Mais je vous fais confiance. Je veux dire que le fait de retrouver, je l'ai dit tout à l'heure, moi je crois que c'est important que les habitants se réapproprient ce qui fait leur vie au quotidien et que cette vie-là, elle a du sens. Voilà, et qu'elle s'inscrit dans une histoire qui est... Alors on parlait hier de cet héritage. Peut-être que le paysage changera demain. Alors, tout à l'heure, Benjamin, tu parlais de recul. Moi, j'aime beaucoup la notion de hauteur. Je crois que, alors à Pandaigne, on a la chance d'être assez haut. Et je crois que c'est important de prendre de la hauteur. Et de se dire à un moment donné, avec les gens qui nous entourent, qu'est-ce qu'on fait de notre vie et de... Enfin voilà, parce qu'il y a le patrimoine, il y a la pierre, mais il y a tout ce qui est matériel, mais il y a l'immatériel. Tout ce qui fait nos recettes, nos relations avec les gens. Je crois que tout ça, ça fait partie de la vie.
Et alors, est-ce que au niveau de la commune, par exemple, on peut dire que les questions de patrimoine, ou enfin même indirectement, elles sont comme ça, elles sont abordées. Est-ce que par exemple, on se demande, tiens, si on prend cette décision, si on construit tel bâtiment, qu'est-ce qu'on va laisser, qu'est-ce que ça implique en termes de transmission ensuite? Voilà, est-ce que vous avez l'impression, pas forcément à Prandaigne, mais que c'est des questions qui sont dans le débat public, quoi, ou pas? Alors, peut-être sur les éoliennes, je sais pas.
On n'a jamais évoqué le problème des éoliennes à Prandaigne. Hein,
je
citais ça comme ça, mais je parlais de ça, oui. Mais non, en fait, il y a des... non, mais... Oh. Chaque fois, l'avantage d'être dans une petite commune comme Prandaigne, c'est que tout peut nous poser question. Enfin, je veux dire, puis on est là pour essayer de répondre. Il n'y a pas très longtemps, pour dire un point de détail, il y a un endroit à Prandaigne qui s'appelle Cantagrelle, mais alors en fait il y a le haut Cantagrelle et il y a le bas Cantagrelle. Ça pose des problèmes au niveau de la distribution postale. Et donc la question était posée récemment pour redonner un autre nom à ce haut Cantagrelle, de sorte qu'il n'y ait plus de confusion au niveau du facteur. Eh bien, ça paraît rien, mais quand même, ça fait partie d'une décision à prendre et il faut y réfléchir à ça. Pourquoi ? Donc, en fait, il faut redonner une appellation à un lieu qui l'avait perdu depuis pas mal de temps. Pourquoi ? Ça, on n'en sait trop rien. C'est parce que l'histoire a fait que. Mais redonner un nom à un lieu, un nom qui avait été perdu au fil du temps, eh bien... Ça fait partie des préoccupations mineures qu'il peut y avoir dans une petite commune comme celle de Prandegne, mais il y a plein de petites préoccupations de cet ordre-là. Et ça fait partie, effectivement, ça s'inscrit dans l'histoire de Prandegne, donc ça s'inscrit dans notre patrimoine, quoi. Voilà.
Et sur un cas comme ça, ou similaire, pas forcément celui-ci, mais on pourrait imaginer donc d'impliquer les habitants, alors quand il s'agit de changement de nom.
Tout à fait, mais ça...
Ou de nommer une rue ou un monument, enfin un bâtiment.
Après ce que tu dis, effectivement, on a consulté les habitants. Sauf qu'à un moment donné, il a fallu trancher parce que personne n'était d'accord. Et donc c'est compliqué à cette échelle-là, parce qu'ils étaient quatre. Et à un moment donné, où s'arrête le bourg, où commence le lieu-dit, et pourquoi ce nom-là et pas un autre, alors qu'il n'est même pas... Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait un nom que l'on donnait à ce coin-là, qui n'est même pas sur la carte. Donc à un moment donné, pourquoi ce nom-là, pourquoi pas un autre ? Effectivement, à un moment donné, on a tranché. Alors effectivement, ça, tu l'as dit tout à l'heure, à un moment donné, là, pour le coup, c'est le politique qui a tranché. Parce qu'il fallait que le conseil municipal prenne une décision. Voilà, parce qu'après, changer un lieu-dit, ça veut dire une enquête publique, ça voulait dire plein de choses. Voilà, mais on a été jusqu'au bout, mais à un moment donné, sur les quatre, ils n'étaient pas tous d'accord, il a fallu qu'on prenne une décision.
C'est ce que Hans Sgard, que j'ai cité tout à l'heure, appelle le paysage négocié. Elle dit que ça se négocie, je ne sais pas si le terme est heureux, mais en tout cas...
C'est de cet ordre-là. Ça s'est négocié et donc on est tous tombés d'accord au bout d'un moment. Mais c'est vrai que ça nécessite aussi de l'énergie.
Et une volonté politique. Est-ce qu'on change complètement de thématique autour du paysage ? Il y a quelqu'un qui a envie de nous parler de patrimoine culinaire ou d'autres choses ? Ou une histoire... Ou est-ce qu'on revient sur cette phrase moi, qui m'a marqué là, sur l'histoire des boutons, là, que si on vit avec notre patrimoine, on n'aura pas de boutons. Parce que c'était le contexte, c'est qu'il y avait les Chinois. Bien sûr. Alors, est-ce que le patrimoine est menacé ? Voilà. Ça, c'est la question. Finalement, on parle souvent dans les discours, on entend beaucoup de défendre, protéger. Ce sont des termes un peu guerriers. On s'est habitué à ça, à entendre parler d'un patrimoine à protéger, à défendre.
Je pense qu'on peut quand même difficilement nier le fait que depuis plusieurs dizaines d'années, on a perdu énormément de patrimoine. Ce qui explique un peu cette position-là. Là, par exemple, aujourd'hui, dans la salle des fêtes, il y a une table où il y a 25 outils dessus. Je défie la moitié des gens ici de savoir à quoi servent ces outils. Ce qui est quand même un exemple d'une perte évidente, pas forcément de l'outil en lui-même, mais de son nom, de son utilisation. Et je mets encore plus au défi les uns et les autres de vous en servir concrètement et d'en faire quelque chose. De la même manière, sur les langues, sur les recettes de cuisine. Voilà. Donc je pense qu'on le veuille ou non, depuis la révolution industrielle, il y a une part du patrimoine qui a disparu. Est-ce que ça avait du sens de le conserver ? Est-ce qu'on en avait vraiment besoin ? La question peut se poser. Pour autant, une fois que c'est perdu, c'est quand même un peu foutu, quoi. Pour réinventer un outil, il faut quand même compter pas mal de temps. Par exemple, nous, des fois, on discute, on explique la charpente. Il faut se mettre en tête que les premiers hommes préhistoriques, ils ont d'abord dormi sous une grotte. Et puis un jour, il y en a un qui a décidé de mettre deux bouts de bois ensemble. Puis un jour, il y en a un qui a décidé qu'on pouvait inventer le tenon et la mortaise. Et puis aujourd'hui, on fait des gymnases avec des charpentes en lame et les collets. Bon, ça prend à peu près plusieurs millions d'années. Donc une fois qu'on a perdu quelque chose, milliers d'années, bon, les historiens se débattront. Mais ce que je veux dire par là, c'est que une fois que c'est perdu, eh ben, bon courage pour le retrouver.
Bon, alors peut-être... Oui, alors voilà, allez-y.
Moi, ce que je voudrais dire, c'est que justement, est-ce que le patrimoine est menacé ? Ben je pense que la société telle qu'on la vit actuellement, dans les pays, disons, modernes, occidentalisés ou peu importe, eh bien, beaucoup de choses sont faites pour que le patrimoine soit perdu pour des intérêts d'argent, de pouvoir politique, etc. Et je pense par exemple à l'Afrique, où il y a maintenant beaucoup d'investisseurs qui viennent acheter des terres à des Africains pour faire des cultures extensives de différents produits, etc. Et qui détruisent ce patrimoine qu'ils avaient sans se soucier quoi que ce soit. Alors derrière, on vous dira, parce qu'il y a des gens qu'il faut qu'ils mangent, il y aura toujours des bonnes justifications à tout ça pour détruire le patrimoine dans sa globalité. Hein. Moi, j'aime bien le mot paysage d'ailleurs que tu emploies. Voilà. Et c'est une. Je n'aurais pas employé le mot de société capitaliste, parce que là, on va rentrer dans des débats politiques, mais société matérialiste, déjà. Et ça, nous le voyons dans tous les pays. Et ça, c'est le grand danger, disons, pour le patrimoine, dans sa globalité. Voilà. Et la réflexion, est-ce qu'elle va se faire? Ou est-ce qu'il faut changer de société? C'est une question, hein.
Moi, je voulais. Bah, on entend là ?
Oui.
Bah, non, mais moi, je voulais dire un truc, c'est que parce que Benjamin parlait de patrimoine qui se perd. Moi, je dis que ça se perd pas vraiment. C'est pas parce que les choses arrivent dans les, comment dirais-je, dans les musées et dans l'histoire, s'inscrivent dans l'histoire, qu'on les a forcément en tête. On est des fois obligé de regarder sur des vieux livres et tout ça pour savoir à quoi servait tel ou tel outil. C'est pas parce qu'on l'a plus en tête, on n'a plus en tête son nom ni son utilisation précise que c'est perdu. Pour moi, ça fait toujours partie du patrimoine. Je suis d'autant plus optimiste que en fait, c'est un petit peu comme si vous voulez les langues. Vous savez, y a des langues vivantes et des langues mortes. Bon, les langues mortes sont intéressantes parce que c'est quand même à partir d'elles qu'on arrive à comprendre la construction des langues vivantes. Hein. Le grec, le latin, ce sont des langues mortes. Alors l'avantage des langues mortes, c'est que ce sont des langues intouchables. Dans le sens où on ne peut plus les modifier. Ça y est, c'est terminé. Elles peuvent servir de référence, mais on ne peut plus les modifier, ces langues-là. Elles sont mortes. Eh bien, c'est un petit peu la vocation du français, d'ailleurs. Je pense que plus tard, le français, dans plusieurs centaines d'années, le français sera une langue morte, vraisemblablement, parce que la langue vivante, ça sera quelque chose qui ressemble à de l'anglais. Donc, voilà, mais le français sera une langue de référence. Eh bien, je pense que c'est ça tout ce qui s'inscrit dans et qu'on appelle le patrimoine, et ben c'est autant de choses qui nous servent de référence, quoi. Et donc ça n'est pas parce que on ne sait plus les nommer ou qu'on sait plus précisément où elles sont qu'elles ne sont pas des références. Ça a existé, ça s'est bien inscrit dans notre histoire humaine et ça reste des références indestructibles, voilà.
Encore faut-il qu'il y ait des gens qui en gardent trace, enfin qu'il y en ait des traces.
Bien sûr, mais là c'est, alors là c'est, ça nous appartient cette transmission, ce témoignage, ce devoir de témoignage et de transmission, ça nous appartient à tous et chacun à son niveau, mais chacun a ce devoir-là, quoi, de transmettre et de préserver, quoi.
André, sur tout ce qui est espèces anciennes ou semences, par exemple, graines, on parle de l'époque de la standardisation, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'espèces anciennes, de variétés anciennes, de citrouilles, de tomates, qui ont parfois disparu et qu'on mettra des centaines d'années à resélectionner, à retrouver, à réinventer. Et d'ailleurs, même les savoir-faire sur le fait de conserver ces semences, etc. Ben, y en a quelques-uns qui savent le faire, qui le conservent, qui... Mais ceux-là sont peut-être des défenseurs du patrimoine, ils sont plus très nombreux, et on est à deux doigts de perdre quand même pas mal de choses là-dessus. Par exemple, sur ce patrimoine, on va dire naturel, biologique. Et Noé est d'accord, ça l'intéresse, parce que lui, c'est son avenir.
Noé, en plus, il en a fait un boulot de conservation du patrimoine.
Je pense pas qu'il existe une chose telle que le devoir de conservation du patrimoine. Je me sens pas du tout lié par une quelconque obligation, un quelconque devoir à garder quoi que ce soit. J'estime que si à un moment donné il y a une chose matérielle ou immatérielle, une idée, une technique, un savoir-faire, une histoire dont tout le monde, absolument tout le monde se fiche, si ça disparaît, c'est pas un problème en fait, c'est pas grave, on continue d'avancer et d'inventer d'autres choses. Le patrimoine, il est représentatif de la multiplicité, de la diversité que nous incarnons. Ce qui nous tient à cœur, on le garde. S'il n'existe plus qu'une seule personne qui s'intéresse à une chose en particulier, cette personne-là la conserve. Peut-être tant mieux, peut-être qu'on s'en fiche. Et on verra bien ce qu'on en fera. Si les choses disparaissent vraiment, je dois rajouter que j'ai quand même une trouille profonde des logiques d'uniformisation et de lissage global. Et je pense qu'il faut s'en méfier. Ce qui est important, c'est que les personnes qui veulent conserver quelque chose, une idée ou une chose, en aient les moyens, que les moyens leur soient fournis de pouvoir conserver ce à quoi elles s'attachent. Mais si à un moment donné, absolument tout le monde s'en fout et que ça disparaît, eh bien tant pis, ça disparaît. Et si on a besoin de réinventer des choses, bien, nous les réinventerons, on a largement les moyens et les capacités de le faire et on construira de nouveaux avenirs selon nos envies.
Un petit clin d'œil pour faire une réponse. Et comment va-t-on faire pour recréer le dodo de Madagascar? Lui, il a disparu. Est-ce qu'on s'en fout? Voilà.
Ah. C'est un drôle d'oiseau.
Un drôle d'oiseau, oui. Voilà. Et voilà, je veux dire que sur la théorie, je serais assez d'accord avec toi. Mais lorsqu'on prend des exemples un peu différents, je pense que c'est un peu exagéré. Parce qu'il y a certaines choses, on ne peut pas s'en fiche. Voilà. Il faut malgré tout, malgré beaucoup de choses, il faut pouvoir les garder. Voilà. Il y a certaines choses qu'il faut garder. Voilà. Et je pense que si on est là aujourd'hui, c'est qu'on a pris conscience que certaines choses, il faut pas les laisser disparaître.
Je pense qu'on peut ne pas s'en fiche si on a l'absolue volonté d'être éternel en tant que race humaine. Mais après tout, ça aussi, c'est une question qu'on peut poser. Après, bon, là, on part un peu loin. Hein. Mais ouais, je reviens sur l'idée que il est important qu'on puisse avoir les moyens de conserver ce qu'on veut conserver, mais que si les choses disparaissent, c'est pas si grave. Et si on doit en souffrir, eh bien on inventera d'autres choses.
Tu parlais. Alors, pardon.
Te présentes ?
Oui, Alexandre, étudiant. Tu parlais tout à l'heure, pourquoi pas réinventer les choses. Et au final, bon, on est aussi responsable de ce qu'on a, de notre patrimoine. Si on le fait disparaître, tant pis, on réinventera autre chose. D'accord. Mais est-ce que c'est pas aussi dommage de ne pas pouvoir se rappeler aussi de nos erreurs, de ne pas pouvoir s'appuyer sur ce qu'on a fait avant, sur des milliers d'années? Ben, ça fait un petit moment qu'on est sur cette planète. Ça fait un petit moment qu'il y a des évolutions. Et tout oublier pour repartir de zéro, est-ce que ce serait pas un gâchis un peu?
Je me permets de répondre du coup. Comment sélectionner ce dont il est important de se souvenir?
Je sais pas. Exactement, je sais pas du tout.
Je pense encore une fois que ça tient à ce que chacun a envie de conserver et juge important pour la suite, de se rappeler.
D'accord. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que le patrimoine, certains patrimoines disparaissent. En même temps, on ne peut pas se souvenir de tout. Ce qui pourtant serait intéressant, connaître... l'évolution de l'agriculture, finalement, enfin, il y a des choses qui sont vitales aujourd'hui pour nous. Manger, c'est tout bête, mais ça fait des siècles et des siècles qu'on mange différemment. Ce serait intéressant de voir au 15e siècle comment on mangeait, comment on vivait, mais on ne peut pas tout retenir. Et comment on pourrait faire pour ne pas tout oublier? Est-ce que l'école n'a pas un rôle à jouer? Mais en même temps, quand on se met à la place, je crois, d'un lycéen ou d'un écolier, on veut lui parler histoire, on veut lui parler patrimoine. Nous, autour de la table, on va dire « Ouais, c'est génial, c'est très intéressant, c'est très important. » Mais je ne sais pas si c'est de l'avis de tous les lycéens, de tous les écoliers. Alors qu'on est presque en train de dire que le patrimoine, c'est notre quotidien.
Juste, ça me fait penser à une pathologie mentale dont j'ai oublié le nom. Enfin, non, mais j'ai entendu parler d'une pathologie qui fait qu'on ne peut pas oublier. Enfin, qu'on se souvient de tout. C'est un dysfonctionnement de la mémoire et c'est horrible. Alors, je ne sais pas si ça existe vraiment, j'en ai entendu parler, mais c'est crédible. Et bien, parce que c'est cette idée que non seulement on ne peut pas tout mémoriser, mais il est même nécessaire d'oublier. Hein. Enfin, cette idée que la disparition est nécessaire. Sinon, on serait peut-être des créatures ou on serait une société folle, quoi.
Cette pathologie, ça s'appelle Internet, non ?
Oui, alors ça fait penser effectivement à une société aujourd'hui qui veut garder trace de tout, tout enregistrer, et peut-être la fonction de l'oubli est-elle effectivement vitale, un certain oubli. Par contre, c'est vrai qu'il y a des oublis forcés qui sont quand même gênants, par exemple des génocides, et là, ça pose quand même un vrai problème, c'est-à-dire que c'est des langues qui disparaissent. Alors, les langues en Amérique du Nord, les langues indiennes qui ont disparu, c'est pas parce qu'on en avait plus besoin que ça intéressait personne, c'est parce qu'on les a tous tués. Donc là, on est dans un autre... Alors, il y a de la destruction quand même du patrimoine qui effectivement peut-être nécessite sa conservation et la défense de ceux qui le portent.
Mais disons, je voudrais peut-être changer un petit peu l'orientation du débat. Je voudrais parler également du patrimoine au niveau de la transmission familiale. On n'en a pas parlé, mais je pense que nous avons tous une famille, des ascendants, des descendants, etc. Et comment nous prenons conscience que nous avons un patrimoine familial, et une fois qu'on a pris conscience de ce patrimoine familial, comment nous allons le léguer, et qu'est-ce que nous avons reçu de nos ascendants. Voilà. Et ça, c'est une question également qui peut se poser. Et c'est peut-être là aussi qu'il nous est plus facile d'agir en tant que citoyen, en tant qu'homme. Voilà. C'est la transmission dans toute sa globalité au niveau familial de tout un patrimoine. Moi, je parle des idées, des histoires, etc. etc. Voilà. C'est aussi un problème. Et là, je pense qu'on peut agir à ce niveau-là plus facilement. Déjà, commencer par là, peut-être.
Parce que c'est le sens, je crois, de départ du terme, d'ailleurs. Hein. C'est la transmission des biens par le père. Ouais. Est-ce que quelqu'un est inspiré par cette réflexion sur la... Et non, parce qu'on est pas, on était parti. C'est vrai, on est parti beaucoup sur le bien commun, le collectif, etc.
Non, mais effectivement, on peut voir ça, les questions de père. Mais je me souviens plus très bien ta question. Là.
Non, mais ça m'étonne pas. Tu as beaucoup d'oubli en ce moment.
Il y a un problème de transmission.
Voilà, tu veux que je recommence hein. Allez,
vas-y. Mais alors, la commune, moi je suis obsédé par les communes, mais moi je suis invité ici, il y a le maire, un conseil municipal. Alors, une famille a la transmission, c'est sacré chez nous. Hein. Il faut pouvoir transmettre son patrimoine. Bon, il y a des lois, ça protège d'ailleurs, certainement à juste titre. Mais alors, on a des maisons qui tombent en ruine. Alors ça, c'est du patrimoine. Alors, est-ce que c'est du collectif ? Est-ce qu'une maison qui tombe en ruine, est-ce que les citoyens, par l'intermédiaire des élus, peuvent intervenir en mettant finalement, en allant contester le droit de la transmission familiale, en disant, écoutez, vous n'avez pas le droit, pour le bien commun, de laisser tomber ce bâtiment en ruine. Alors, je pense que d'un point de vue, oui, illégal, c'est très compliqué, mais est-ce que vous pensez qu'une commune serait légitime à intervenir ?
Nous, dans le petit village où on habite, là, c'est un village qui fait partie de Prodaigne, il y avait une grange qui, petit à petit, elle était magnifique, cette grange. Enfin, moi, je la trouvais jolie. Mais petit à petit, eh bien, le temps en est venu à bout, c'est-à-dire que les murs ont fini par enfler, ils ont pris l'humidité météorique, ça a fini par... les murs ont éclaté et puis ça s'est effondré, quoi. Mais bon, on l'a trouvé jolie, mais que faire ? On peut... de toute façon, elle n'était pas protégée par un classement quelconque, donc on ne pouvait rien faire, on l'a vu s'effondrer. Et puis voilà, tu voulais dire quelque chose ?
Mais tu l'as dit un peu, en fait ça existe déjà, il y a... On m'entend moi ? C'est marrant celui-là, on a l'impression qu'on s'entend pas. Ouais.
Oui,
si. Ça, il y a des gens qui, leur métier c'est de classer des monuments, classer des paysages, et à partir de, du moment où c'est classé, là, un pouvoir public a le droit de dire, de donner son mot sur ce qu'un propriétaire privé peut faire. Voilà, ça existe. Après, là pour le coup, tu posais la question sur la commune de Prandaigne. Moi, à ma connaissance, je ne vois pas de bâtiments ou de choses qui sont dans ce cadre-là. Quoi.
Ça peut être aussi une dégradation perçue du paysage, perçue comme dégradation.
Alors là, nous avons le cas.
Quelqu'un qui veut construire, qui a le droit, a priori, et est-ce que la commune peut, sous prétexte qu'on est à intervenir, ou devrait. Enfin, c'est une discussion ouverte. C'est pas une question légale là, que je pose. Est-ce que vous pensez que ce serait légitime?
Alors c'est juste pour revenir sur la discussion juste avant ta question, c'est on a fait le choix à un moment donné de racheter une maison qui était en centre-bourg. Cette maison appartenait à une famille qui ne s'en servait plus et qui souhaitait la vendre. Après, on l'a rachetée, on l'a mis au rez-de-chaussée, la bibliothèque, à l'étage, on a fait un logement. Ça, c'est un choix qui a été fait par la commune. Après, on n'est pas là non plus pour se substituer à une démarche privée. Je crois qu'il y a des moments où on pourrait regretter que des maisons tombent à ruine. Après, je crois que... Alors, je vais enfoncer une porte ouverte, mais les communes n'ont pas tous les moyens, et notamment tous les moyens financiers, pour pouvoir réaliser ce genre d'opération. Alors, il y a parfois... On a la volonté, mais on ne peut pas tout non plus.
On va se diriger vers la fin de cette discussion, mais il reste encore un peu de temps, un petit peu de temps, si vous voulez faire un dernier commentaire ou léguer quelque chose à travers cette boutique magnifique qu'est la radio.
Alors si c'est une ouverture vers l'avenir, puisque c'est du patrimoine, on fait plein de choses avec l'association Déclame. On vous invite donc à découvrir les sentiers retrouvés de Faisel, de Prandaigne et surtout celui de Saint-Berdoux qui parle des mines. On refait vivre le kiosque à musique à Figeac avec un truc qu'on appelle le printemps en fanfare. Cette année, on s'est amusé à faire des journées du patrimoine un peu autrement. Voilà, donc je pense qu'on a bossé à Miers aussi cette année, au hameau de Barrière, un hameau abandonné au 19e siècle où Yannick a fait avec Dimitri et des jeunes, puisqu'on fait des chantiers de jeunes, pour sensibiliser les jeunes au patrimoine, entre autres, remonter des murets de pierres sèches par centaines de mètres. Donc on vous invite à découvrir tout ça, mais parmi l'association Déclame, mais parmi d'autres aussi, en fait, il en existe plein sur le territoire du Lot et ailleurs. Donc, voilà, venez à la rencontre de ces associations-là qui, elles, n'ont pas institutionnalisé des patrimoines particuliers. Elles bossent un peu sur tout et souvent sur du patrimoine qui fait sens pour les habitants.
Le mot de la fin, André, peut-être ou
non ? Peut-être pas le mot de la fin, non, mais moi, je voudrais dire qu'à Prandaigne, eh bien, il y a une sensibilisation à tout ce qui concerne le théâtre et les affaires théâtrales. Tous les ans, on a un festival, ça s'appelle Ségalard. Et donc, c'est vrai que la population de Prandaigne participe beaucoup à tout ce qui se met en place en matière d'animation théâtrale. Et donc, c'est vrai qu'on parle... Alors là, je parle de choses à créer. C'est vrai que on pense, pas toujours, mais par moments, on pense à mettre en place à Prandaigne quelque chose qui ressemblerait à un théâtre de verdure. Voilà. Le paysage s'y prêterait, Benjamin, tu peux pas me dire le contraire. Et voilà, ça serait, voilà, c'est une idée qu'on a. On a commencé à la travailler un petit peu, mais chacun dans sa petite tête. Et puis, peut-être qu'un jour, on réussira à mettre ça en vrai, quoi.
Bah merci, on s'est projeté vers l'avenir. Et non, on a encore une autre projection.
Non, ce n'est pas une projection, c'est que je suis heureux d'être venu aujourd'hui à Prandaigne. Et je ne m'attendais pas à vivre la journée que j'ai vécue. Voilà. Et c'est la première fois que l'on me donne l'occasion de parler du patrimoine, de m'exprimer là-dessus. C'est bien la première fois. Et il y a eu beaucoup de premières fois à Prandaigne aussi, pour moi. Et c'est peut-être pas la dernière.
On l'espère.
Voilà. Et je veux dire, ça participe beaucoup au fait d'intégrer, disons, cette notion de patrimoine, de réfléchir à cela. Et je pense que même s'ils ne sont pas trop nombreux, c'est déjà beaucoup d'avoir pu échanger à ce niveau-là. Au-delà de toutes les opérations officielles du patrimoine, ouais, qui me gonflent, qui me sortent par les trous de nez, quoi. Voilà.
Bon, alors merci aux organisateurs de cette journée. Et on va poursuivre. Il y a du patrimoine immatériel ou culinaire qui va suivre, là, je crois. Merci à vous.